Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, en Ituri, la sécurité est renforcée autour des centres de traitement d'Ebola et des structures sanitaires engagées dans la riposte. Une base mobile des casques bleus de la Monisco a été déployée à Mongwalou, dans le territoire de Djougou, pour appuyer les services de sécurité. Vous le savez déjà, l'Ituri a un nouveau gouverneur, le général-major Gabi Kasongo Mulumba. Il remplace le général Johnny Luboyan Kachama en poste depuis 2021. Qu'est-ce que la population retient du passage du gouverneur sortant à la tête de cette province? Réponse dans cette édition. L'invité de ce journal est Michel Mbouyou Yenga Yenga, un des responsables du secteur de l'artisanat minier dans la province du Lualaba. Il revient sur l'importance des 33 zones d'exploitation artisanale qui viennent d'être créées par le gouvernement au profit des creuseurs artisanaux. Encore une fois, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Alain Goy assure la technique devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais tantôt, en Ituri, la sécurité est renforcée autour des centres de traitement d'Ebola et des structures sanitaires engagées dans la riposte, aussi bien à Bounia qu'à l'intérieur de la province. Parmi les mesures prises, une base mobile des casques bleus de la Monisco a été déployée à Mongwalou, dans le territoire de Djougou, pour appuyer les services de sécurité. Objectif, protéger les personnels de santé et les installations médicales dans une zone où la désinformation et la méfiance envers la riposte restent présentes. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Blaise Sindani Kambala.
Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans plusieurs centres de traitement d'Ebola, notamment à Rwampara, Bounia et Mongwalou. Des policiers assurent la garde des sites afin de prévenir d'éventuels incidents et garantir la sécurité des personnels soignants. Cette présence est également observée dans plusieurs structures sanitaires publiques et privées impliquées dans la prise en charge des malades. Même les enterrements sécurisés bénéficient désormais d'une protection renforcée après les incidents enregistrés il y a une semaine à Bounia où des membres d'une équipe de riposte avait été agressé lors d'un enterrement. Pour appuyer les efforts du gouvernement, la Monisco a déployé depuis jeudi une base mobile de casques bleus à Mongwalou, l'un des principaux foyers de l'épidémie. Cette présence vise à renforcer la protection des travailleurs humanitaires, des équipes médicales et des infrastructures de santé. Selon plusieurs sources, cette mesure contribue à améliorer les conditions de travail des équipes de riposte et à faciliter la prise en charge des patients. Par ailleurs, les actes de résistance et les menaces contre les équipes des ripostes semblent diminuer progressivement grâce aux campagnes de sensibilisation menées auprès des communautés pour lutter contre la désinformation autour de cette épidémie déclarée le 18 mai dernier à Ituri.
Et face à la recrudescence de la maladie à virus Ebola et à l'activisme des rebelles des ADF, les élites provinciaux du Nord Kivu appellent la population à une collaboration étroite avec les autorités. Ils insistent notamment sur la nécessité d'informer les services compétents à temps et d'éviter toute forme de désinformation. Cet appel ressort d'une réunion d'évaluation tenue hier vendredi autour du gouverneur de province consacrée à la situation sécuritaire et sanitaire dans la région. Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui a conduit cette délégation, s'est confié à Marc Marofimbo.
Nous avons été informés de la façon dont on gère la situation d'Ebola et nous avons constaté que l'autorité s'y met sérieusement et que nous pensons qu'il y a lieu de sortir de cette pandémie. D'aider sur la situation sécuritaire, nous avons échangé avec lui et nous avons donné des propositions. Il nous a donné aussi ce qu'ils ont prévu pour en train de faire afin de pouvoir sécuriser les populations de la ville de Beni et du territoire de Beni. La première des choses que nous demandons à la population, c'est avoir la confiance aux dirigeants et de partager l'information dans l'urgence. Donc la coopération civilo-militaire, c'est ce que nous recommandons, et d'aider, faire confiance à l'armée. Et trois, éviter les rumeurs, les réseaux sociaux qui créent des tensions. C'est le jeu de l'ennemi, il faut éviter cela. Et donc, tous les services sont mis en contribution pour sécuriser l'entité.
Retour en Ituri avec cette nomination d'un nouveau gouverneur en remplacement du général Johnny Luboyan Kachama qui suscite des réactions diverses. Certains saluent les avancées enregistrées sous son mandat, notamment sur le plan sécuritaire et des infrastructures. D'autres estiment que l'objectif principal de l'état de siège, notamment le rétablissement de la paix, n'a pas été atteint. Le point avec Isaac Remoyopi.
L'annonce du changement à la tête de la province de l'Ituri continue de susciter des réactions à Bunia. Pour certains habitants, le mandat du général Johnny Luboya Kachama a été marqué par des avancées significatives. Ils citent notamment la construction de certaines infrastructures publiques, la modernisation de la voirie urbaine ou de l'aéroport de Bunia, ainsi que l'amélioration de la sécurité dans les territoires d'Irumu et une partie de celui de Djougou. De Gracias Bungamuzi, habitant de Bunia.
L'Ituri, dans certains territoires comme Irumu, comme une grande partie du territoire de Ndjougou, mais également le territoire de Mahagi, la situation était catastrophique avant l'arrivée de Johnny Luboya Kachama. Mais avec beaucoup d'engagement, aujourd'hui, plusieurs entités de notre province sont à paix, en dehors des cas isolés.
D'autres dressent toutefois un bilan plus mitigé. Selon eux, malgré ces réalisations, l'objectif principal de l'état de siège, le rétablissement de la paix, n'a pas été atteint à raison de la persistance des groupes armés et des milliers de personnes vivent encore dans des sites déplacés.
En vérité, sur le plan sécuritaire, Luboya a échoué. Nous le félicitons pour le développement parce que Bunia est devenu plus propre. Mais côté sécurité, les groupes armés sont toujours là avec leurs armes et les habitants n'ont pas accès à leurs champs. Cela prouve que la sécurité n'est pas encore une réalité chez nous.
Sécurité pas non guiné et pas nous.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, la coalition citoyenne pour la nation qui réunit les sociétés civiles laïques et confessionnelles lance un appel au président de la République pour l'organisation des référendums. Cette plateforme demande également aux députés de faire diligence pour convoquer une session extraordinaire afin de permettre au peuple souverain de se prononcer sur la nécessité ou non de la révision ou du changement de la Constitution. Appel lancé hier vendredi à l'issue d'une marche dite citoyenne dont la chute a été l'annexe du stade des martyrs. Le président de la coalition citoyenne pour la nation, l'archevêque Ediba Yamapia, en parle au micro de Jean-Marc Matouaki.
La société civile laïque et la société civile confessionnelle, nous sommes prêts pour aller au référendum. Que le président de la République nous en donne la possibilité, que les parlements fassent diligence. Comment envoyer de Dieu, nous disons, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République, en commençant par le président, le parlement, le gouvernement.
Sous un autre chapitre, la gestion de la foresterie communautaire dans la province de la Tchopo fait école. Étendue sur 1 200 000 hectares, elle inspire d'autres provinces à l'instar du Sud Kivu, dont une délégation est arrivée à Kisangani pour s'imprégner de ce modèle en vue de l'appliquer à son tour. Les points avec Jacques Moukonkoulé.
La délégation du Sud Kivu est venue chercher à Kisangani une expertise pionnière. Elle a visité les concessions forestières des communautés locales à 206 et 211 km sur l'axe Bafoua-Sende. Objectif visé, se rendre compte de réalités locales qui peuvent être dupliquées dans le Sud Kivu. Didier Kabi, ministre provincial de l'agriculture du Sud Kivu, apprécie ce modèle qu'il ambitionne désormais d'importer.
Je me suis rendu compte que Xatropenbos a fait un travail énorme ici. C'est lui de l'appropriation par la population de l'importance de la foresterie communautaire.
Cette reconnaissance du savoir-faire local sonne comme un couronnement pour les acteurs de la société civile environnementale, dont l'ONG Tropenbos RDC, qui gère cette foresterie communautaire. Professeur Alphonse Maindo, directeur de Tropenbos RDC.
Cet échange d'expérience est très important. Bien sûr que nous sommes plus avancés que la province du Sud Kivu, ce qui est motif de fierté. C'est une invitation à aller de l'avant, à mieux faire.
Au-delà de ce partage d'expérience, les deux provinces regardent désormais dans la même direction. Le Sud Kivu et la Tchopo scellent une alliance stratégique. Elles préparent un plaidoyer commun auprès du gouvernement central à Kinshasa. L'objectif est double, obtenir un appui technique renforcé pour les communautés et surtout, capter de manière équitable les dividendes financiers du marché des crédits carbone. Jacques Konkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Et puis, les droits de certaines catégories de travailleurs qui contribuent à l'économie nationale à hauteur de 75% ne sont pas respectés en République démocratique du Congo. Tel est le constat fait par les coordonnateurs de la synergie syndicale Union Fait la Force, regroupant la Confédération démocratique du travail et l'Union nationale des travailleurs du Congo. Abel Didier Mukomo appelle le gouvernement à se pencher sur cette problématique pour mettre fin au traitement discriminatoire que subissent notamment les travailleurs domestiques et les maraîchers en République démocratique du Congo. Des détails avec Ella Chembalou.
La situation sociale de ces travailleurs mérite une attention particulière, car ils participent à la croissance de l'économie nationale, estiment les coordonnateurs de l'Union Fait la Force.
Nous avons une catégorie de travailleurs domestiques qui font un grand travail, mais marginalisés, mais négligés. Personne ne s'en rend compte. Ils n'ont pas de contrat de travail, ils n'ont pas les aires de travail précises, ils n'ont pas de protection sociale, ils n'ont pas de sécurité au travail.
Pour Abel Lidé Mukomo, il n'est pas normal que l'État prélève des taxes sur les travail que font les conducteurs des motos sans penser à leur construire des arrêts de stationnement ni leur faire bénéficier des formations sur les respects du code de la route.
Ils ont tous les documents complets, des plaques, mais en contrepartie, l'État ne fait absolument rien. Ils roulent dans tous les sens, sans ordre, sans organisation, sans formation.
Il salue par ailleurs l'initiative du député Prince Kanguil a déposée à l'Assemblée nationale en mai dernier.
Qu'est-ce qui se trouve dans cette proposition de loi? C'est garantir le travail décent et la protection sociale des travailleurs domestiques.
L'Union Fait la Force fustige également la spoliation des espaces réservés aux travaux des maraîchères à travers la ville.
Les travailleurs du secteur informel, particulièrement les motocyclistes, les travailleurs domestiques et les maraîchers, méritent la dignité sociale et la dignité humaine.
Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée pour l'amélioration des conditions de travail de cette catégorie de travailleurs en RDC.
L'humanité a célébré hier vendredi 5 juin la Journée internationale de l'environnement. Au Maniema, la Caritas Développement Kindu, à travers la Commission diocésaine des ressources naturelles, en a profité pour sensibiliser sur la bonne gestion des déchets. Une équipe est passée dans plusieurs chapelles, montra aux gens les bien fondés de la protection de l'environnement. Une demande a été faite aux autorités afin qu'elles placent les poubelles publiques à travers la ville pour aider la population à bien gérer les déchets. On écoute à ce sujet Albert Ngoy Moulongoy, coordonnateur de la Commission diocésaine des ressources naturelles à la Caritas Développement Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
La Caritas, à travers la Commission diocésaine de ressources naturelles, passe dans les communautés ecclésiales de base pour sensibiliser les communautés sur la bonne gestion des déchets. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'à Kindu, généralement dans la province du Maniema, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des poubelles. Ils se servent des caniveaux, ils se servent des lieux publics parfois, la route pour jeter les déchets. Et le fait de jeter les déchets partout provoque des maladies et pour prévenir cela, il faudrait sensibiliser la population à la protection de l'environnement. C'est ainsi que nous sommes organisés pour passer dans les communautés de base afin de les sensibiliser sur la bonne gestion des déchets. C'est ainsi que nous appelons toutes les communautés à savoir que l'environnement sain nous procure une vie saine. Chaque geste compte. Quand on gère bien les déchets, on protège l'environnement. Nous exhortons les autorités locales à prévoir un lieu de la poubelle publique où la communauté peut aller jeter les déchets.
Au Congo central, les habitants de Kinzao village à Matadi vivent dans le noir depuis près de 6 mois. Et pour cause, la cabine d'un particulier qui alimente la localité est tombée en panne à cause de sa vétusté. Désemparée, la population souhaite désormais être directement desservie par la Société nationale d'électricité. De son côté, la SNEL appelle les habitants à la patience. Des détails avec Élise Kavira.
À Kinzao, dès le coucher du soleil, l'obscurité s'installe. Depuis 6 mois, chacun se débrouille comme il peut pour s'éclairer. Et jusqu'ici, aucune lueur d'espoir ne se profile pour ses habitants. Fatigués d'attendre une solution qui tarde à venir, la population élève la voix et dénonce les conséquences déjà visibles de cette situation, comme en témoigne Roger Nimi, l'un des habitants.
Dès 20h, tout le monde, enfants et adultes, doit être près de sa maison. Parce qu'il y a des criminels venant d'ailleurs qui viennent s'introduire dans les maisons munis d'armes.
De son côté, la Société nationale d'électricité rassure et demande aux concernés de prendre leur mal en patience. Elle affirme que des efforts sont en cours pour débloquer la situation. Plus de précisions avec Gabi Malonda, directeur régional de la SNEL.
On a un transport qui n'est pas loin de ce coin-là. D'ailleurs, j'avais demandé aux responsables de Matadi d'organiser une rencontre avec les représentants de ce coin, leur dire que l'énergie a un prix. Sauf qu'il y a des préalables. On doit recenser d'abord tous ces gens-là. Ceux qui vont accepter d'ouvrir les dossiers, de commencer à payer les courants SNEL, on va les raccorder sur les transports que nous avons dans les parages-là.
Selon lui, un autre problème complique les interventions. L'accès à la cabine située non loin du village reste difficile en raison du mauvais état de la route qui y mène. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Les travaux de construction et de modernisation de plusieurs infrastructures de base tournent au ralenti dans la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Le député national élu de Lissala, Marcel Dandou Ekoutou, a lancé cette sonnette d'alarme dans une déclaration faite ce samedi devant les médias à Kinshasa. Cet élu du peuple sollicite l'implication de la première ministre pour la relance de ses travaux, notamment ceux des bétonnages de l'avenir aérodrome, long de 3 km, ainsi que les travaux de lutte anti-érosive à travers la ville. Marcel Dandou est au téléphone de la Chembalou.
Je viens lancer une sonnette d'alarme auprès du gouvernement de la République sur les deux sujets d'une importance capitale en faveur de notre population de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Relancé par la première ministre Judith Suminwa au début février de cette année, les travaux de bétonnage de l'avenir aérodrome avancent avec lenteur inquiétante, longue de plus de 3 km. Aujourd'hui, on n'est même pas à 1 km de bétonnage, alors que c'est la principale artère de la ville. Les travaux de lutte anti-érosive lancés par la première ministre sont oublié. Aucune action n'a suivi ces lancements. Chaque fois qu'il pleut à Lissala, les érosions avancent. Les avenues sont coupées, les maisons sont détruites. Nous venons demander à la première ministre de s'impliquer personnellement pour que les travaux reprennent dans le meilleur délai.
Actualité internationale.
20 ans de prison, c'est la peine prononcée hier vendredi 5 juin à Bamako par la justice malienne contre un ressortissant français. Agent des renseignements français sous statut diplomatique à l'ambassade de France à Bamako, il avait été arrêté en août 2025 et poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est que Paris a toujours réfuté.
L'invité.
Notre invité est Michel Mbuyu Yenga Yenga, un des responsables du secteur de l'artisanat minier dans la province du Lualaba. Il revient sur l'importance des 33 zones d'exploitation artisanale qui viennent d'être créées par le gouvernement au profit des creuseurs artisanaux. Il fait également une proposition pour une bonne gestion de ces sites miniers. Michel Mbuyu Yenga Yenga s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Michel Mbuyu Yenga Yenga, bonjour.
Bonjour, monsieur Paulin.
Vous œuvrez dans les secteurs de l'artisanat à Kolwezi. Le gouvernement vient de créer 33 zones d'exploitation artisanale au bénéfice des creuseurs dans les Lualaba. Quelles sont vos impressions, tout d'abord, par rapport à cette nouvelle?
Déjà, je commence par sincèrement remercier le ministère national de Mines en collaboration avec le gouvernement provincial du Lualaba qui ont pensé aux exploitants miniers artisanaux que nous encadrons, bien sûr, parce que depuis un certain temps, il y avait des cris un peu partout où on n'avait pas d'endroit où travailler. Mais de par cette décision de donner 33 zones d'exploitation artisanale, je trouve que c'est une décision louable et nous prions vraiment au gouvernement de continuer dans ce sens, bien que ça ne va pas trop suffire, mais ça va alléger une grande partie des exploitants miniers artisanaux.
Comment est-ce que ces zones d'exploitation artisanale, les 33, ne vont pas suffire?
Là-bas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais les exploitants miniers artisanaux sont par moment 20 fois plus que les travailleurs qui sont dans les entreprises. En différent quoi? Si on gardait les mêmes 33 zones d'exploitation artisanale pour la province du Lualaba, ça ne va pas suffire. Il y aura beaucoup de creuseurs, beaucoup d'exploitations artisanales dans peu de sites. Or, il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'exploitants miniers artisanaux entassés sur peu de sites pour permettre au CIMAP de faire un bon travail de contrôle. Parce que plus vous êtes entassés, plus le danger est grand. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons.
Et combien de coopératives y a-t-il au niveau de la province du Lualaba?
C'est au-delà de 100 coopératives. Parce qu'il y a également certaines coopératives qui ont été créées ailleurs et qui se sont installées au Lualaba. On ne sait pas dire non, ou parce que vous avez créé votre coopérative ailleurs, vous ne savez pas. Non. Tout le monde est libre partout, il est en République démocratique du Congo. Et vu qu'il y a une centaine de coopératives et qu'on a donné seulement 33 zones d'exploitation artisanale, il faudrait que l'État puisse penser à organiser des fédérations de coopératives dans différents sites pour que ça ne frustre pas certains et que ça privilégie d'autres.
Et pouvez-vous évaluer le nombre de creuseurs qui œuvrent dans la province du Lualaba actuellement?
En tout cas, dans la province du Lualaba, c'est au-delà de 500 000 creuseurs dans différents sites.
Comment est-ce qu'ils travaillaient avant la création de ces 33 ZEA?
Avant la création de ces 33 ZEA, les creuseurs travaillaient par moment dans les zones sociales laissées par certaines entreprises, bien sûr en collaboration avec le gouvernement provincial. J'ai pu citer certains exemples, comme par exemple le site de T17. Le T17, c'était un site appartenant à l'entreprise KCC, en collaboration avec le gouvernement provincial et les responsables des encadreurs des exploitants miniers artisanaux. Ça a été laissé aux exploitants miniers artisanaux travailler là-bas. Mais la saison des pluies n'a pas fait bon ménage et ça a compliqué le travail. Et moi, je trouve qu'avec cette création, ça va vraiment alléger le travail aux exploitants miniers artisanaux.
Donc, ils travaillent comme des clandestins, en quelque sorte.
En tout cas, c'est le mot qu'on a employé, mais aucun d'eux n'entrait sur un site sans l'autorisation au préalable. Mais avec les 33 zones d'exploitation artisanale, là, ils vont travailler sans qu'on les qualifie d'un quelconque nom parce qu'ils sont en train de travailler là-bas. Là, ils vont travailler comme étant chez eux, sans problème, sans être tracassés, sans être traités de clandestins, comme vous venez de le dire.
Et que proposez-vous pour que ces 33 zones d'exploitation artisanale soient utilisées à bon escient pour l'intérêt général des créateurs artisanaux?
Déjà, ce que je pourrais dire pour ce qui concerne les coopératives, il faudrait que le créateur ou l'exploitant minier artisanal soit au centre de leur action. Et vu qu'il doit être au centre de leur action, je proposerais, pour ne pas léser certains et privilégier d'autres, qu'il y ait fédération de coopératives. Donc sur un site, voire deux ou trois coopératives, travailler pour l'intérêt des exploitants miniers artisanaux. Mais que cela ne nuise au travail des exploitants miniers artisanaux. Ou sinon, ça c'est ma petite proposition par rapport à ça. Je sais que deux ou trois coopératives œuvrant sur un même site et travaillant dans l'intérêt des exploitants miniers artisanaux, cela pourra alléger les deux camps, si je peux les appeler comme ça. Donc les dirigeants de coopératives et les exploitants miniers artisanaux.
Monsieur Michel Mbuyu Yenga Yenga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie,
M. Paulin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez également le retrouver sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.